Radio 1, la première FM de Tahiti, vous offre une nouvelle heure. Radio 1. Premier sur l'info, l'info locale.
Toujours un plaisir de vous retrouver aussi nombreux sur Radio 1, la première FM de Tahiti, pour l'actualité locale, avec les titres présentés par Wallis Glaise.
Bonjour Beignet, bonjour à tous. Une journée de commémoration du premier essai nucléaire en Polynésie. Air Tahiti reprendra toutes ses destinations à partir du 7 juillet. Philippe Schill, battu lors du second tour des élections dimanche dernier, a tenu hier une conférence de presse. Le candidat perdant dénonce les irrégularités dans les procurations. Et puis enfin, le thonier chinois échoué à Rutua le 21 mars dernier, toujours sur le récif, avec la saison fraîche, là où le cas déjà a remporté le barrage anti-pollution fait craindre une catastrophe écologique aux habitants de l'atoll.
Journée de commémoration du premier essai nucléaire en Polynésie.
Oui, c'était le 2 juillet 1966, il y a 54 ans, qu'était mené le premier tir à Mururoa, nommé Aldébaran. La date est devenue une journée de commémoration et de mobilisation pour les associations de défense des victimes du nucléaire. Ce matin, l'association 193 avait ainsi réuni une centaine de personnes devant le Haut Commissariat. Son président, le père Auguste, estime que l'indemnisation des victimes n'avance pas, il recule. L'objectif est donc d'interpeller l'État sur l'amendement Tétouanou. Oui, mais aussi la présidence toute proche et qui est accusée de ne pas soutenir les victimes.
Ce que nous voyons cette année 2020, trois quarts des dossiers sont rejetés par le CIVEN au niveau de l'association 193. Et à chaque fois qu'il y a ces rejets, l'amendement Lana Tétouanou est invoqué. Et donc c'est compliqué. Il faut supprimer cet amendement, tout simplement. Voilà pourquoi nous sommes ici, au milieu de ces deux autorités qui ont les clés de faire avancer ou de faire en sorte que l'histoire de ce pays reste encore au même niveau. Il faut que les élus locaux soient plus courageux. On a l'impression qu'ils ont plus peur de la réaction de l'État que d'autres choses.
Mururoa et Tatau avaient de son côté choisi de ne pas manifester cette année pour cause d'incertitude sur le Covid-19. L'association avait tout de même réuni une petite poignée de militants pour parler du versant international du combat. Le collectif encourage désormais les victimes à se faire connaître auprès de la Cour pénale internationale, en restant pour le moment assez flou sur la procédure amenée et sur les résultats attendus. Écoutez le président de l'église protestante, Maui, qui est très lié à l'association.
C'est ce que nous allons discuter, quelles seront les démarches et quelles sont les directives pour qu'on aboutisse à cette démarche. Il y avait déjà une au niveau des Nations Unies à New York et une deuxième à Genève. Maintenant, on est en train de voir comment on va faire une démarche pour aller à La Haye, des victimes de se présenter volontairement pour toute la Polynésie, ceux qui sont plus vaillants pour affronter Goliath.
Des propos recueillis par Charles Irénée.
Air Tahiti, subventions, fonds et délégations contre reprise de toutes les destinations.
Au terme d'un accord de reprise des dessertes aériennes interinsulaires signé hier matin, la présidence Air Tahiti s'engage à reprendre la desserte aérienne des 46 îles de son réseau à compter du 7 juillet et ne procéder à aucun licenciement. En contrepartie, la Polynésie versera 450 millions de subventions à la compagnie cette année. Et surtout, le pays s'engage, comme cela avait été prévu par la loi depuis 2016, à créer une délégation de services publics et un fonds pour compenser les pertes engendrées par les lignes déficitaires. Je vous propose d'écouter Jean-Christophe Bouissou qui avait justement réagi la semaine dernière à l'égard d'Air Tahiti.
Il faut toujours des moments un peu dramatiques pour que les connexions puissent se faire et sachez que tout le film qui s'est déroulé, je l'ai dit tout à l'heure, a été minutieusement programmé. Le niveau de mon intervention, le coup de poing sur la table, sachez que tout ça c'est de la coordination pour aboutir aussi à l'ancien débat public qui amène aujourd'hui à, c'est vrai, aider Air Tahiti, mais en contrepartie, c'est le pays qui va décider de la base tarifaire sur ces lignes déficitaires, y compris sur les fréquences, et enfin sauver les emplois.
Manate Vaivich, le directeur général de la compagnie, rappelle que la délégation et donc les financements du fonds de continuité territoriale n'iront pas automatiquement à Air Tahiti.
Ce fonds de continuité n'est pas destiné à Air Tahiti puisqu'il est destiné à financer une délégation de service public qui sera ouverte. Des entreprises seront mises en compétition et donc si Air Tahiti a la chance de pouvoir être retenu, alors effectivement Air Tahiti voit un pan de ses activités être financé par les deniers publics directement. Ce qui nous permettra, nous, alors à ce moment-là, d'avoir une politique tarifaire différente de celle que nous avions avant, puisque la politique tarifaire qu'Air Tahiti a portée jusqu'à présent était une politique tarifaire contrainte, du fait qu'il fallait assurer la couverture des déficits sur certaines lignes. Là, maintenant, on aura les mains beaucoup plus libres.
Manate Vaivich le sait, les 450 millions de francs de subventions ne permettront pas de couvrir les pertes de l'année et encore moins celles qui sont d'ores et déjà projetées en 2021, 2022 ou 2023, même si la délégation de services publics devrait alors aider. Pourtant, le directeur général assure qu'une recapitalisation n'est pas à l'ordre du jour.
Le débat n'a pas eu lieu, en fait, parce qu'il n'est pas d'actualité. Aujourd'hui, Arteti n'est pas en situation de devoir nécessairement aller à la recapitalisation. Nous avons encore un peu d'eau sur la quille et nous essayons de tenir dans le format que nous avons actuellement. Mais effectivement, c'est un sujet qui est sur la table. Il appartiendra aux actionnaires en temps voulu d'y répondre. Le protocole d'accord que nous avons signé prévoit que nous en discutions. Donc nous en discuterons, je l'espère, dans les conditions de sérénité, dès lors qu'on aura commencé à mettre un peu derrière nous les difficultés auxquelles nous sommes confrontés.
Des propos recueillis par Charlie René.
L'hélicoptère des évacuations sanitaires est arrivé à Nukuiva.
Parti le 26 juin à bord de l'Aranui, l'hélicoptère de la société Tahiti Nui Helicopters est arrivé hier matin à Nukuiva, aux Marquises, où il sera basé. L'hélicoptère a été accueilli par l'administrateur d'État des îles Marquises, Guillaume Audebeau, et par le secrétaire général du gouvernement, Philippe Macheneau. Cet appareil sera affecté en priorité aux évacuations sanitaires dans l'archipel. Au mois de septembre, deux appareils aux couleurs des Marquises seront livrés et pourront également effectuer du transport de passagers.
Procuration, Philippe Schild conteste la victoire de Teurairiti à Haroui.
Philippe Schild, battu lors du second tour des élections dimanche 28 juin, a tenu une conférence de presse hier aux révélations explosives. Philippe Schild dénonce des irrégularités dans les procurations. Explication.
C'est la première fois que je vois ce genre de situation, c'est-à-dire utiliser des procurations de cette manière-là. Il y a déjà eu par le passé des procurations litigieuses sur des questions de forme ou de choses comme ça, mais jamais avec cette gravité-là, jamais avec cette ampleur-là, et en plus avec la complicité de personnes habilitées ayant une autorité. Je trouve ça extrêmement choquant. Je trouve dommage que notre police nationale locale soit aussi, malheureusement, embarqué dans des choses comme ça.
D'après Philippe Schild, la commune d'Haroué en a connu plus qu'à l'accoutumée. 369 mandats, dont 270 auraient été utilisés. Les Noirs et Blancs affirment même avoir récolté des témoignages d'habitants de Haroué ayant été démarchés à leur domicile. Plusieurs actions judiciaires vont être lancées, comme l'explique Maître Dominique Bourion.
Je vais saisir le tribunal administratif d'une contestation du résultat de l'élection de dimanche dernier et je vais également lancer une procédure pénale contre les auteurs de ces faits frauduleux, s'ils sont avérés frauduleux. Pour le moment, on n'a pas les résultats de l'enquête et ceux qui en ont bénéficié. Pour la procédure administrative, c'est destiné à prononcer la nullité de ce résultat compte tenu du fait qu'il y a plus de 100 procurations qui sont litigieuses et qui sont, à mon sens, frauduleuses quand on les regarde bien.
Alors, vers un troisième tour, pas sûr. D'abord, le tribunal administratif reçoit après chaque élection plusieurs dizaines de recours et n'en fait aboutir que très peu. Pour rappel, au premier tour, plus d'une centaine de recours avaient été déposés et tous avaient été rejetés. Considérant la difficulté d'organisation d'un scrutin en ces temps de précautions sanitaires, Maître Bourion demande en premier lieu que le tribunal défalque les procurations litigieuses du résultat.
Il a la possibilité soit de défalquer les procurations litigieuses du nombre de votes et donc de proclamer vainqueur celui qui aura le plus grand nombre de votes. À la mesure où il y a un écart de 79 voix entre Philippe Schild et Mme Iriti et que le nombre de procurations est supérieur à 100, on comprend très vite quel serait le résultat si le juge l'acceptait. Mais le juge n'est pas obligé de suivre ma demande, c'est la demande que je vais faire. Mais la demande subsidiaire que je ferai, ça sera de réorganiser des élections, cette fois-ci de manière loyale et honnête et correcte.
Des propos recueillis à part Charlie René.
Tonnier échoué à Arutea après l'échec des premiers travaux, quel plan ?
Plus de trois mois après l'accident, le Shen Gangshun 1 endommage chaque jour un petit peu plus le lagon d'Aratua, affirment les habitants qui exploitent notamment la perle, les trocas ou encore les bénitiers. La secrétaire adjointe de l'Association pour la préservation de l'environnement évoque les faits lors d'une visite sur le récif à l'occasion d'une vidéo publiée sur Facebook. De son côté, le maire de la commune tempère ses déclarations. Il affirme que le gardien qui est sur le site n'a signalé aucune trace de mazout.
Toutes les semaines, le gardien qui s'y trouvait est revenu au village. Et dans la semaine, il passe pour prendre des photos, mais il n'y a aucune trace de majeur qui se trouve sur place. En fait, le truc que l'association a ramassé, c'était non bénitier à nous qui avons mangé sur place. Les bénitiers et les maouans, on a mangé sur le récif. Là, ils ne sont pas contaminés du tout. Là, j'assume ce que je dis.
Une situation qui inquiète également Raïmana Maout, pêcheur professionnel.
après avoir essayé le désechouement, plus aucune activité depuis. Le bateau aujourd'hui il penche du côté bâbord. En carburant, je sais pas qu'est-ce qui a été enlevé. Et au niveau poisson et appât, rien n'a été retiré en fait.
Un spécialiste de la dépollution basé à Singapour aurait été contacté pour envisager de dépolluer le navire par le lagon et non par la mer, mais son devis aurait été jugé trop cher par le propriétaire du tonnier. Une nouvelle tentative, dit le Tavana de l'atoll, qui a été en contact avec le ministre Jean-Christophe Bouissou, serait prévue pour le 12 juillet. Voilà pour ce journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi.